Bonjour à tout le monde. Donc, je connais peut-être le tiers de l'assistance ici ce matin. Juste pour dire que je fais partie de l'Église ici dans le sens que dans ses débuts, il y a 40 ans, j'étais ici avec d'autres membres. Donc, peut-être, qui était avec moi dans les premières années? Juste à vous mettre debout là. Dans les premières années, qui était là? Wow! Donc, c'est vraiment une joie que, de pouvoir être encore là avec vous. Et je dois vous dire aussi que je suis un peu ému ce matin là, à cause de ces retrouvailles, de vous voir. Donc, merci d'être de cet accueil. Donc, Noël est une saison d'émerveillement. Donc, et je pense que même, merci Cathy de cette récitation d'un si beau poème aussi. Et je pense que l'Annonciation, quand l'ange est venu annoncer à Marie justement cet avènement, cette arrivée du Fils, elle était dans l'émerveillement. Et depuis les premiers temps, cette histoire de la venue de Jésus sur la terre a produit de la créativité. Donc, j'ai cherché un peu sur l'Internet des tableaux, justement, qui captent un peu cet émerveillement. J'ai trouvé, justement, celui-ci que je trouve quand même assez frappant. Et Noël est une saison d'émerveillement. Elle devrait l'être au moins. Nous célébrons le point tournant dans l'histoire de l'humanité, le moment où Dieu descend et prend sa demeure au milieu de nous. C'est l'accomplissement de cette poursuite dont la Bible parle depuis les premières pages. Un Dieu à notre recherche. Où es-tu, Adam? Un Dieu qui désire marcher avec nous et nous faire participer dans la plénitude de vie qu'il a toujours voulu pour nous. Donc, voilà un peu le message de la Bible. Mais nous connaissons un peu l'histoire. La rupture, donc on voit ici le jardin d'Éden à droite et justement, cette rupture que l'humanité a vécue de ce que Dieu aurait voulu pour nous. Donc, la rupture à cause de la rébellion de l'être humain, les conséquences drastiques qui tombent sur nous. Même l'enfant d'Adam et Ève, Caïn, devient meurtrier de son propre frère. Et la terre, dans les années qui suivent, nous lisons dans les premiers chapitres de Genèse, devient envahie de corruption et de méchanceté. Au point même où Dieu regrette d'avoir même créé les êtres humains. C'est une histoire tragique, n'est-ce pas? Mais Dieu, surtout avec Abraham, commence son long projet de restaurer l'humanité, finalement. De rétablir cette communion avec les êtres humains en choisissant une famille qui allait devenir la source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ça, c'est la promesse à Abraham. Et nous lisons dans cette histoire fascinante dans les pages de l'Ancien Testament. Mais nous découvrons également que même si Dieu avait choisi un peuple et lui avait donné ses lois et ses promesses, le peuple avait surtout abandonné Dieu et suivi le même chemin que Adam a tracé. C'est un projet qui n'a pas abouti à ce que Dieu aurait voulu, n'est-ce pas? C'est Jésus lui-même qui capte dans les paroles cette tragédie d'un peuple qui n'a pas voulu de Dieu. Donc Jésus a dit ceci en regardant Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. En tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais je vois le cœur de notre Dieu ici, révélé dans les paroles de Jésus, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors Dieu sort sa carte maîtresse, n'est-ce pas? Son plan par excellence. Il vient lui-même. Et voilà que nous célébrons à Noël cette entrée de Dieu au sein de l'humanité. Et ce qu'on appelle l'incarnation, et merci pour ce si beau poème que Cathy vient de réciter. Dieu devient homme, ce miracle. Il vient lui-même nous rejoindre. Le ciel descend sur terre. Extraordinaire. Donc, nous lisons en Galates 4. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment propice est venu, le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Donc, et Jean 1,14, un autre verset que nous connaissons bien. La parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, son arrivée, surtout dans l'Évangile selon Luc, c'est un événement d'émerveillement, comme Myriam a si bien loué également. Tout comme la première histoire de l'humanité nous est communiquée à travers une histoire avec des véritables personnages, comme dans le Jardin d'Éden, nous pouvons lire l'histoire. La deuxième Adam, quand lui arrive sur Terre, il est aussi arrivé entouré d'une histoire merveilleuse, avec des personnages, avec des événements, avec des choix importants. Donc, la venue du deuxième Adam sur la Terre, c'est lui qui est venu ouvrir la porte pour la restauration et la guérison de l'humanité. Nous est communiqué à travers une histoire avec des personnages, avec des enjeux. Donc, c'est l'approche narrative, ceux qui étudient la Bible disent, c'est l'histoire qui véhicule le message de la venue de Jésus. Et j'aime ça beaucoup, que Dieu nous a communiqué vraiment la vérité, son message dans la Bible à travers une histoire. Je me souviens très bien quand nous habitions à Roxborough, ici, pas loin, et avec nos 6 jeunes garçons, il y a 30 ans de cela, nous avons assisté à un spectacle extraordinaire à Roxborough, avec des marionnettes, avec un artiste et raconteur qui a fait un spectacle extraordinaire pour nos enfants. Et mes enfants et moi, nous étions émerveillés, tous les enfants présents étaient émerveillés, mais ce qui m'a frappé à la fin du spectacle, je regardais autour de moi, et les autres parents étaient comme amorphes. C'est comme s'ils n'étaient pas du tout touchés par l'histoire. Et j'ai été touché par ça parce que j'ai constaté que l'histoire était comme trop familière. Les gens étaient... C'est comme si l'histoire n'avait plus son émerveillement pour les gens. Mais il faut prier quand même que l'histoire de Noël, qu'elle ne soit pas une histoire quétaine pour nous, n'est-ce pas? Qu'elle ne soit pas une histoire, disons, facile ou simple, qu'on passe à travers sans vraiment y penser sérieusement. Parce que c'est une histoire d'émerveillement, vraiment. Et je vais vous proposer aussi qu'il y a une richesse dans cette histoire qu'il faut redécouvrir peut-être. Et c'est pour ça qu'on a essayé ce matin avec quelques poèmes, justement, de peut-être vous amener à penser à l'histoire autrement, à trouver peut-être une dimension qui vous inspire de cette histoire si magnifique. Redécouvrir combien merveilleuse est cette histoire. Donc, et dans cette histoire, il y a des voies poétiques dans l'histoire. Il y en a plusieurs même, voies poétiques. Donc, nous voyons premièrement l'ange Gabriel qui parle à Marie, justement. Donc, nous voyons premièrement sa salutation et le réconfort. Il dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. N'aie pas peur, Marie. » Car tu as la faveur de Dieu. Donc, il continue avec la promesse. Bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils et tu appelleras du nom de Jésus. Et l'enfant à naître, il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël et son règne n'aura pas de fin. Comme le tout va s'accomplir pour toi, il continue l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et l'on appellera Fils de Dieu. On trouve ici justement une structure poétique dans les paroles de Gabriel. Ce n'est pas juste les mots qui tombent comme ça, là. C'est quand même très pensé, très réfléchi, là. Il y a ce qu'on appelle un parallélisme. Donc, il y a des versets, des idées qui se répètent pour mettre l'accent là-dessus, là. Mais aussi, par exemple, pourquoi ne pas dire tout simplement que l'Esprit viendra sur toi? Il dit aussi, pour entrer dans le mystère, il dit, la puissance te couvrira comme d'une ombre. La puissance te couvrira comme d'une ombre. Pour entrer dans ce mystère, il faut l'approcher avec notre imagination. Parce qu'il n'y a pas de façon scientifique d'expliquer ce qui est arrivé, là. pour entrer dans ce mystère de la naissance, mais de la naissance virginale, n'est-ce pas? Ou de la conception virginale de Marie. C'est comme une ombre qui descend sur elle. Il parle de façon imagée. Il prend une métaphore. Et ça, c'est le territoire de la poésie, n'est-ce pas? Ça va prendre d'autres voies. Moi, je dirais, toute l'histoire est comme un orchestre poétique pour nous, vraiment, quand on y pense. L'ange communique et rassure Marie de ce plan merveilleux, tout en l'invitant à participer. Et nous avons sa réponse précieuse, n'est-ce pas, qui est vraiment extraordinaire. « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Donc, Marie comprend que ce que l'ange dit n'est pas une parole comme toutes les autres. C'est une parole qui donne vie, là. Et le mot hébreu, c'est pour cette parole-là, c'est un réma. Quand Dieu a parlé, justement, au moment de la création, il la chose fut, n'est-ce pas? Nous connaissons bien le Genèse chapitre 1. Donc, c'est une parole qui crée, c'est une parole qui donne vie. Donc, quand Marie dit qu'il se soit fait, que ça, tout se passe pour moi selon ta parole, elle parle justement de cette parole qui donne vie. Donc, elle dit oui à la parole créatrice de Dieu dans sa vie. Mais l'ange dit également à Marie une autre chose, il lui parle d'un autre acteur dans ce projet extraordinaire de Dieu, n'est-ce pas? Et nous lisons justement à propos d'Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile, est maintenant en son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, nous voyons dans l'histoire de Noël ici, dans cette histoire merveilleuse, que l'ange dit à Marie, « Tu n'es pas toute seule dans ce projet. Il y a aussi ta parente Élisabeth. Puis elle vit quelque chose de semblable à toi. Elle vit elle aussi une conception miraculeuse, Élisabeth. Donc elle va participer avec toi dans cette histoire merveilleuse. Tu ne seras pas toute seule dans cette histoire. Tu vas avoir un autre compagnon avec toi qui va t'accompagner. » Campagne avec toi. Et ça me saisit ici parce que c'est aussi la façon dont Dieu parle, Dieu agit dans nos vies aussi. Dieu intervient dans nos vies, mais ce n'est jamais une intervention toute seule. Ce qu'il fait dans ma vie, il y a des fortes chances qu'il fait quelque chose de semblable dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Puis lorsque nous partageons cette œuvre de Dieu dans nos vies, l'un avec l'autre, nous découvrons que nous sommes encouragés, nous sommes élevés ensemble à cause de cette œuvre parallèle que Dieu fait dans la vie de nos frères et sœurs. Et on voit ça déjà dans l'histoire que Marie ne sera pas toute seule à vivre cette expérience. Et elle sera avec Élisabeth. Et ces deux femmes vont cheminer ensemble dans les miracles de Dieu. Extraordinaire. Donc, dans les jours qui suivent, on voit que Marie voit cette importance. Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Donc, moi, je dirais, je ne sais pas, on va lire un peu l'histoire encore, mais ce que nous découvrons dans ce passage, je vous propose, c'est un des moments les plus précieux dans toute l'histoire de la Bible. Deux femmes vraiment sur les marges de la société. Zacharie, par exemple, ce n'était pas un prêtre extraordinaire, c'est une prêtre comme les autres, peut-être même de deuxième ou troisième rang, Zacharie. Ils avaient subi la honte dans leur vie de cette culture qui mettait tellement de pression sur les femmes et sur les familles d'avoir des enfants. Donc, elle était déjà d'un âge avancé. Et Marie, elle, était une jeune femme dans un village reculé, sans importance, qui avait même une mauvaise réputation, Nazareth. Mais voilà, chose remarquable qui reflète le cœur de Dieu, il ne choisit que rarement des grandes personnes pour accomplir son plan. Il choisit les gens très ordinaires, comme vous et moi, n'est-ce pas? Des gens qui ont peut-être un arrière-plan pas très spécial, disons, là. Moi, j'ai grandi dans un petit village dans l'Ouest canadien que personne ne connaît, tu sais. Quand tu passes là, il faut regarder comme il faut parce que tu ne verras même pas le village en passant là. Mais on pourrait dire, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir d'un tel village là? Et là, vous pouvez mettre le village d'où vous venez là, peut-être dans la phrase. Mais on voit que Dieu choisit les gens très ordinaires, deux femmes. Et vraiment, c'est extraordinaire dans cette histoire, c'est que dans toute la littérature ancienne, nous n'avons aucun récit qui ressemble à celui-ci, où deux femmes sont des acteurs importants dans le plan de Dieu. On ne voit jamais ça. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on voit ici. Ces deux femmes qui sont des acteurs, qui font partie de ce plan merveilleux de Dieu. Donc, la salutation de Marie, Élisabeth, fait surgir en elle quoi? Un chant, un poème aussi. Donc, on voit Élisabeth, elle se met à chanter là. Au moment où celle-ci entend la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Donc, Élisabeth chante et Jean-Baptiste danse, d'accord? Donc, il y a comme un va-et-vient ici. Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte. « Dieu t'a béni plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. » Elle chante là. « Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi? » Elle est dans l'émerveillement. « Qu'en vois-tu au moment où j'ai entendu ta salutation? » L'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. « Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Extraordinaire. Donc, Élisabeth se met à chanter. On peut ajouter que, comme je disais, et Jean-Baptiste se met à danser. Mais qu'est-ce qu'elle dit? On voit plus loin ici avec Marie aussi. 6. J'ai mélangé mes pages. C'est le commencement. Marie et Jésus, dans son sein, inspirent Élisabeth et Jean-Baptiste, mais Marie, à son tour, ne peut contenir sa joie et elle se met elle-même à chanter. Et ce que nous appelons le Magnifica, n'est-ce pas? Ce poème extraordinaire qu'elle a chanté, un cantique qui déborde d'émerveillement, de louange et de confiance. Mais je pense qu'on voit là un encouragement pour nous, un très grand encouragement. Quand Dieu nous bénit, quand il fait un miracle dans nos vies, qu'est-ce qu'on va faire avec, là? Il faut partager avec nos frères et sœurs ce que Dieu fait dans nos vies. Quand nous sommes bénis, il faut partager cette bénédiction avec les autres. Et cette bénédiction en moi va déborder sur eux. Et l'Esprit de Dieu va peut-être les inspirer à chanter sur moi et avec moi, à partager avec moi l'émerveillement et la joie de cette bénédiction qui est dans ma vie. Et en entendant leur encouragement et leur joie et en goûtant mes bénédictions, nous sommes nous-mêmes inspirés à chanter, à louer Dieu, notre Dieu, encore de plus profondément. En tout cas, je me souviens très bien. Je ne sais pas, nous avons quelque chose de spécial dans notre histoire, Laurie et moi, c'est qu'on a des jumeaux. Mais pas juste une fois, mais deux fois. Et donc, on a eu nos premiers jumeaux et j'étais dans l'émerveillement avec avoir des jumeaux et on a décidé d'avoir un cinquième enfant. Et finalement, Dieu nous a donné 5 et 6. Et je me souviens, là, j'étais tellement là, transporté dans mon cœur à moi que je suis parti dans la rue et j'ai dit à tout le monde, même des étrangers, là, je ne pouvais pas garder cette bénédiction juste pour moi, là. Il fallait que je le partage avec les autres. Mais vous savez, quand tu partages une joie avec quelqu'un, même quelqu'un qui a tendance à être très, disons, avoir la face longue, là, tu sais, ça change. Des fois, la joie est contagieuse, hein? La joie est contagieuse, là. Et une bénédiction partagée va devenir aussi une bénédiction pour l'autre. Voilà l'importance de ce partage. Et nous voyons cet élan, ce momentum, n'est-ce pas, entre ces deux femmes. Élisabeth chante et Marie, et ça inspire Marie à composer puis à réciter ce poème extraordinaire que nous avons devant nous, là. Donc, je pense qu'on trouve en Colossiens 3, justement, ce dont je vous parle ici. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Donc, il parle de cette... voilà exactement ce que Marie et Élisabeth ont vécu. Là. Ils ont la parole de Christ, la vie de Christ était en elles. Là, tu sais. Puis ils ont partagé cette joie de la vie nouvelle en elles. Et cette joie a été interprétée avec des chants et des poèmes. C'était l'élan de créativité à cause de l'œuvre profonde que Dieu faisait dans leur vie. Et je pense que Dieu veut quelque chose de semblable pour nous, là. Nous serons tellement dans l'émerveillement devant l'œuvre de Dieu dans nos vies qu'on ne peut pas faire autrement que d'écrire un poème ou écrire un nouveau chant et interpréter, partager ce chant-là avec l'Assemblée parce que c'est un débordement de la bénédiction que Dieu a mis dans nos vies, dans nos cœurs. Je pense que voilà ce que Dieu veut pour son Église, là. C'est ce que Dieu veut pour nous. Amen?
Amen.
Amen. Donc, regardons donc le Magnificat, qui est ce poème extraordinaire de Marie. Et touchons quelques petits points de ce poème. De tout mon être, je dirais la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu mon Sauveur. Donc, la joie est là, n'est-ce pas? Car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains vous diront « bienheureuse ». Et on voit ici un poème qui commence toujours dans l'expérience personnelle. Tous les grands poèmes de tous les temps, c'est toujours un débordement de quelque chose de grand que Dieu fait dans la vie de la personne. C'est une expression de mon âme. Même une définition d'un poème. Hein? C'est quoi un poème? C'est l'âme en action par le moyen des paroles. J'aime ça, hein? L'âme en action par le moyen des paroles. Donc, ce qu'on voit ici avec Marie. Tout son être. Et là, il dit, mon cœur. Donc, on voit le parallélisme. C'est une des façons de s'exprimer poétiquement. Elle répète, mon âme, mon être, mon cœur déborde. On voit sa gratitude. On voit devant tout ce que Dieu fait dans sa vie. Malgré son abaissement, sa petitesse, son manque de qualification, si on veut. Toute la joie qui est là dans sa vie. Donc, une autre définition de la poésie, le récit d'une grande émotion. J'aime ça aussi. Le récit d'une grande émotion. Et voilà le Magnificat. Donc, c'est un poème qui donne honneur et gloire à Dieu. Regarde ici, là. Tout mon être, je dirais la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Il a porté son regard sur moi. C'est lui qui est puissant, il est saint, il est plein de bonté. Elle continue là, puis elle parle de ses actions. Il a montré son pouvoir, il a mis en déroute les orgueilleux, il a renversé les puissants, il a élevé les humbles, humiliés. Il a comblé de biens, il a renvoyé des riches, il est venu en aide à Israël. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté. Donc, elle parle de toutes les actions de Dieu, de toute l'œuvre de Dieu. Donc, dans sa vie, puis dans l'avenir aussi, elle voit par la foi tout ce que Dieu va faire à travers son Fils. Extraordinaire. Donc, mais quelle liste de qualités, quel Dieu d'action nous avons? Il s'élève pour accomplir son plan de salut et de délivrance. Et Marie voit par la foi ce qui s'en vient également. Une autre chose qu'on trouve dans son poème, c'est l'étendue toujours grandissante de son poème. Elle commence sur le plan personnel. Elle parle de sa joie, de la bénédiction personnelle qu'elle vit. Puis là, elle élargit le cercle. Elle dit, mais Dieu, tu agis également dans le monde. Tu vas agir également dans les circonstances ténébreuses dans lesquelles je vis actuellement. Là. N'oublie pas le contexte dans lequel elle vivait. Là. Sous l'emprise et la cruauté de Hérode et de l'occupation romaine en Palestine à l'époque. Elle vivait dans un temps très ténébreux. Mais elle voyait que son fils, que l'avenue du Messie va renverser les choses. Que Dieu va commencer son plan de salut qui sera plus grand que le plan de destruction que l'ennemi avait formulé. Mais le cercle devient même plus large. Puis elle termine en parlant de la bénédiction de Dieu envers son peuple. Tu n'agis pas uniquement dans ma vie à moi. Mais c'est là parce que tu vas agir dans le monde et dans ton peuple aussi. Tu vas descendre des puissants. Et donc, dans le verset qui suit, verset 54, il est venu en aide à Israël. Nous ne sommes pas oubliés là, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il avait promis nos ancêtres. Vous savez, hein, nous sommes nous aussi les fils et les filles d'Abraham. Vous savez ça? Et que Dieu ne nous a pas oubliés. Amen. Dieu ne nous a pas oubliés. Et que sa promesse est pour moi et pour mes enfants, mes 6 garçons et mes huit petits-enfants et les 2 autres en chemin. Imaginez-vous. Il faut quand même applaudir les 2 autres. Et même mon fils Justin, le deuxième, là, il attend leur première petite fille, là, donc c'est vraiment extraordinaire. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Il n'a pas oublié nos enfants et nos petits-enfants. Je me souviens, un dimanche extraordinaire ici à l'église. Là. Nous n'étions pas ici, mais ailleurs, mais l'église était là. C'était, je pense que c'était en 94 ou 95. Là. Mais nous avons baptisé 13 personnes. Lors d'un service le dimanche, là, incluant mon fils, Nathan. Et je pense que, je ne sais pas si il y en a d'autres ici qui étaient baptisés en même temps, peut-être. Pascal, peut-être, es-tu baptisé en même temps? Mais quel dimanche extraordinaire! Et j'ai ressenti, parce que là, quand nous sommes arrivés ici, Laura et moi, il y a 40 ans, Nathan était juste un bébé, là. Et Céline était enceinte avec Jean-Philippe. La première fois que je l'ai rencontrée, elle était enceinte avec Jean-Philippe. Là, tu sais, là. Donc, je commence à montrer mon âge un peu, là. Notre âge. Mais quel dimanche extraordinaire! Et je sais que peut-être vous avez des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur actuellement, là, comme j'en ai, moi. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Et Dieu n'a pas oublié nos enfants. Amen.
Amen.
Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants. Pour toujours. Pour toujours. Donc, je reviens avec Colossiens 3, juste pour nous encourager, pour terminer le temps ici. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse avec, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Donc, je vous propose là que Dieu veut former un orchestre dans une église. C'est quoi l'orchestre? L'orchestre, c'est vous et moi. C'est des poètes. C'est des musiciens, c'est des chansonniers, des gens créatifs comme vous et moi, et qu'ensemble, nous allons former un orchestre ou un collectif d'artistes, peut-être, je ne sais pas trop, là. Mais les gens mais qu'est-ce qu'on va faire, au juste? On va écrire des hymnes, des cantiques spirituels et des psaumes, nous-mêmes. On va trouver un langage poétique pour exprimer ce que Dieu fait dans nos vies, dans nos cœurs. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que Dieu va nous bénir tellement mutuellement d'entendre ces témoignages et de voir cette créativité que Dieu suscite parmi nous. Donc, ouvrons nos cœurs, alors, à la parole de Dieu qui dépose en nous des grandes bénédictions. Premièrement, c'est la première chose. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Donc, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu et à la bénédiction de Dieu dans nos vies. Donc, et méditons et célébrons ce que Dieu fait. Écrivez vos propres poèmes, vos propres psaumes de joie. Peut-être vous êtes musicien, écrivez vos propres chants pour célébrer Dieu, là, qui exprime le profond de votre cœur. Et après ça, trouvez des amis avec qui vous pouvez partager ces bénédictions-là. Et ensemble, vous allez vous encourager de façon mutuelle extraordinaire. Et laissons couler les bénédictions parmi nous et découvrir tout un élan de créativité ensemble, inspiré par l'Esprit et les uns par les autres. Exactement comme Marie et Élisabeth. Donc, si la venue de Jésus dans leur vie a stimulé cette créativité, pourquoi pas dans nos vies à nous. Pourquoi pas? Peut-être vous dites, « Ah, mais j'ai pas d'élan créatif. Moi, là, c'est la poésie, là, et moi, là, ça va pas, là. » Mais je pense que vous serez surpris, là. Prenez un psaume, le psaume 23, qui est un psaume très poétique, et laissez-vous trouver vos propres métaphores, vos propres images, et créer votre propre psaume de la présence de Dieu qui est votre berger. Donc, commençons comme ça et cherchez des images de votre vie par lesquelles vous pouvez exprimer ce que Dieu fait dans votre cœur. Et partagez ça avec les uns avec les autres. Et vous serez bénis richement. Amen?
Amen.
Donc, qu'à celui qui est puissant, a fait pour nous des choses magnifiques. Lèvez-vous ensemble avec moi, là. On va lire ça ensemble. Car celui qui est puissant a fait pour nous de choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté de génération en génération.